André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans l'œuvre de Marcel Pagnol avec la 7e émission de la série qui lui est consacrée et avec La fille du puisatier, film français écrit et réalisé par Marcel Pagnol, sorti en 1940 et interprété notamment par Rému Fernandel et Josette D. 11e film de Pagnol, il s'agit d'une comédie dramatique autour d'une fille mère, d'abord repoussée par ses parents, par les parents du père, ainsi que par son propre père lorsqu'elle révèle être enceinte, avant qu'il ne revienne vers elle après la naissance de l'enfant, d'abord par intérêt, puis par affection pour celui-ci. Le film est tourné en France pendant les combats de 1940, puis l'armistice de ces événements se retrouve intégré au scénario. Sorti fin 1940 en zone libre, il s'agit du premier film de la zone libre à être diffusé en zone occupée, à partir d'avril 1941. Il obtient beaucoup de succès dans les cinémas français pendant plusieurs années. Il est par exemple au sommet du box-office français de 1943. L'histoire a par la suite été adaptée en pièce de théâtre et un nouveau film par Daniel Auteuil en 2011. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Philippe Merlan.
Oui, bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour nous faire profiter de vos lectures d'extraits du texte de Pagnol, La fille du puisatier. Alors nous sommes en 1939. Patricia, fille aînée du puisatier, Pascal Moretti, va chaque midi porter leur pitance dans la garrigue à son père et à son aide, le bon Philippe. En chemin, elle rencontre un jour un bel officier d'aviation, Jacques Mazel, qui la séduit. Voici un premier extrait, la rencontre de Patricia, Françoise, et de Jacques, Philippe, au bord du ruisseau.
Vous voulez traverser le ruisseau? Vous avez peur de quoi? Si vous avez entendu venir, c'est moi qui me serais caché. Je pêche à la main et c'est défendu. Mais approchez-vous, je ne suis pas un sauvage.
Moi non plus. Vous savez, vous ne m'effrayez pas.
Ben, je n'ai rien fait pour ça. Je vous ai simplement demandé si vous vouliez traverser le ruisseau.
Il est à vous?
Ben, justement, il traverse des champs qui appartiennent à mon père.
Les pierres et le sable sont peut-être à vous, mais un ruisseau, c'est de l'eau qui passe. Et l'eau qui passe, à qui est-elle?
Elle est à moi, pendant qu'elle passe chez moi.
Vous n'êtes pas chez vous sur cette terre, même si vous l'avez payée bien cher.
Et pourquoi?
Parce que vous ne la cultivez pas.
Mon grand-père l'a cultivée pendant longtemps, mais mon père n'est pas paysan. Il ne veut pas qu'on y travaille, parce qu'il en fait une chasse gardée. Ah, n'essayez pas de défaire ce nœud, il est trop serré.
Je porte déjeuner à mon père, pour pourtant que je le traverse.
Oh ben, ça sera bien facile. Si vous permettez, levez-vous là. Prenez votre panier. Hop là. Et bien voilà.
Merci.
Et maintenant, comment vous appelez-vous?
Elle ne répond pas. Mais au retour, il va l'aider à nouveau à traverser le ruisseau. Et même la raccompagner avec sa moto. Elle est séduite. Plus tard, le brave Philippe l'emmène à Salon de Provence pour assister à un meeting aérien où elle retrouve Jacques, et c'est la bascule. Voici un deuxième extrait, les mêmes, Patricia, Jacques.
Mais c'est vous qui m'avez demandé de m'arrêter.
Je sais.
Mais vous m'avez dit, mon foulard s'est envolé. Ce n'était même pas de ma faute.
Je sais.
Et lorsque nous avons retrouvé le foulard là-bas dans cette haie, vous m'avez pris le bras, et vous m'avez dit, il faut que je vous parle. Ben, c'est vrai.
C'est vrai. Et il y a encore quelque chose que vous ne savez pas. Mon foulard, ce n'est pas le vent qui l'a dénoué. C'est moi. Je l'ai fait exprès.
Pourquoi?
Sur cette moto qui marchait si vite, je m'accrochais à votre taille et je sentais votre chaleur. L'odeur du vent qui m'a fait tourner la tête. Alors, j'ai fait exprès de perdre mon foulard parce que je n'avais plus de force et que j'avais peur de tomber.
Ah ben, c'est une déclaration d'amour.
Ou de faiblesse. En tout cas, c'est une espèce de folie. Et pourtant, je ne suis pas folle.
Oh, certainement non.
Mais j'ai toujours été avec des femmes et des filles. Au couvent d'abord, et puis à la maison, au milieu de mes sœurs. Je ne m'étais jamais approchée d'un garçon. Et maintenant, voilà.
Voilà quoi?
Il y avait une fille à côté de ma maison qui était mon amie. Et puis un jour, j'ai vu qu'elle sortait quelquefois en cachette avec un garçon au clair de lune. Je lui ai dit que je l'avais vu et elle m'a fait des confidences.
Je devine ce qu'elle a pu vous dire.
Moi, je n'avais pas deviné et je suis devenue toute rouge et j'avais envie de pleurer. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais voulu lui parler. Je la voyais toute grise, toute vieille. Et maintenant, voilà, je suis comme elle.
Vous savez, il ne faut rien exagérer. Les histoires de garçons et de filles, c'est toujours un peu la même chose.
Maintenant, je n'ai plus le droit d'embrasser mon père ni mes sœurs.
Bah, ben ça, ce sont les idées de petites filles. Si toutes celles qui ont eu un amoureux n'osaient plus embrasser leur père, ni leur sœur, ni leur cousine, on ne s'embrasserait plus beaucoup dans les familles. Il me semble que vous prenez cette aventure un peu trop tragique. Évidemment, ce n'est pas bien malin ce que j'ai fait là, mais si c'était à refaire...
Mais ne croyez pas surtout que vous me devez quelque chose. Vous êtes un garçon, c'est aux filles à se défendre. Mon malheur, je l'ai mérité. Et même, je l'ai recherché, hier matin déjà. Survenu au ruisseau exprès.
Pour me revoir.
Oui. Le soir, lorsque Felipe est venu m'inviter d'abord, j'ai dit non, parce que je ne savais pas que vous seriez à ce meeting. J'ai dit non. Et je languissais qu'il s'en aille. Je voulais vite me coucher dans la nuit pour être seule et puis pour penser à vous. Et puis, quand il m'a parlé de vous, j'ai dit oui. Il a cru que c'était pour son automobile, mais moi, pour vous voir, je serais venue à pied. Il me semble maintenant que j'étais déjà perdue.
Vous êtes un chic type, Patricia. Si l'un de nous deux a mal agi, c'est moi. Je suis un homme, et je suis riche, tandis que vous n'êtes qu'une enfant pauvre, et vous m'avez donné une très grande preuve d'amour.
Oui, mais c'est une preuve qui prouve que je ne mérite pas d'être aimée. Allons, ramenez-moi le plus vite possible et n'y pensez plus.
Vous ne voulez plus me revoir?
À quoi bon? Vous êtes riche, vous venez me le dire. Je suis la fille du Pusati. Rentrons vite.
Patricia, il faut que je vous parle longuement demain matin. Où puis-je vous voir?
Je ne sais pas.
Vous ne pouvez pas venir au salon?
Et comment? Il faudrait que je prenne le car.
Et si j'allais vous voir avec la moto près de chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas un bosquet ou une ferme abandonnée ou un poste de chasse?
Il y a une chapelle, la chapelle Saint-Julien. Et près de la chapelle, il y a un grand cyprès.
Eh bien, demain matin, près du grand cyprès, vers 11h.
Si vous voulez. Mais ça va servir à quoi?
Bah, vous n'avez donc aucune envie de me revoir?
Si, j'ai envie. Et puis je ne sais pas, je ne suis plus moi maintenant, je suis une autre. Et vous, je vous aime. Par malheur, vous êtes le mal et le péché.
Oh, attendez, je crois que voici Felipe.
Il va voir la moto sur la route.
Bah, très certainement, venez vite.
Si je le regarde, il comprendra tout.
Allons donc.
Il n'y aura pas de troisième rendez-vous. La guerre éclate et Jacques est envoyé en urgence en service commandé en Afrique. Il écrit une lettre pour Patricia qu'il confie à sa mère avec la mission de la lui remettre, ce qu'elle ne fait pas. Elle va au rendez-vous derrière l'église et brûle la lettre après avoir rencontré la jeune fille sans se présenter. Philippe doit aussi partir à la guerre, mais avant, il a une chose très importante à faire. Pascal Amoretti, le puisatier et ses filles l'accompagnent à la gare. Il le laisse seul avec Patricia. Voici un troisième extrait. Patricia, Françoise et Philippe, Philippe.
Il va peut-être vous acheter des cigarettes.
Ça ne m'étonnerait pas, parce que je sais qu'il m'aime beaucoup. Et puis, je crois qu'il a voulu nous laisser seuls à un moment. Oui, oui, parce qu'il faut que je vous parle. Voilà ce que c'est. Asseyez-vous. Voilà, ce que je vais vous dire, je voulais vous le dire le jour du meeting, mais... Et puis il est arrivé cette histoire d'ivrognerie que quand j'y pense, j'ai tellement honte que j'en pleurerai. Et puis le malheur de l'oiseau, et ça m'a empêché de vous dire ce que je voulais vous dire. Et ce que je voulais vous dire, je vais vous le dire. Donc...
Écoutez-moi, Philippe.
Mais ne me coupez pas, autrement je suis perdu. Je ne pourrai plus parler. Donc voilà, ça fait 3 ans que je vous connais. Alors j'ai remarqué que quand je vous vois, je suis content. Et quand je ne vous vois pas, je ne suis pas content. J'ai remarqué que quand vous apportez le dîner à votre père au puits, moi, pendant qu'il est dans le puits, je change vite mon pain pour le sien. Parce que son pain, vous l'avez touché. Et alors, je le mange volontiers. Et même, je ramasse les miettes. Et puis, j'ai remarqué que les autres filles, quand vous êtes là, je ne les vois pas. Et puis, j'ai remarqué que quand je creuse au fond du puits, dès qu'on a passé les 8 mètres et qu'il commence à faire nuit, je rencontre votre jolie figure et vous souriez sur mon travail. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a la mobilisation. Est-ce que vous commencez à comprendre?
J'ai compris depuis bien longtemps, Felipe. Et je sais que vous seriez un bon mari pour moi. Mais... je ne peux pas vous dire oui.
Ça veut dire non?
Ça veut dire non. Ma sœur Amanda, vous aime. Elle sera une bonne femme pour vous.
Bah, mais c'est pas votre sœur que je veux, c'est vous.
Je ne peux pas. Je vous aime bien, Felipe. Je connais votre gentillesse et votre bonté.
Mais seulement, vous ne m'aimez pas. Ah, ça, c'est embêtant. Vous savez, on dit que dans les ménages, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Eh bien, ça sera moi. On essaie.
Je ne peux pas. J'ai fait une bêtise. Une bêtise très grave. Avec un garçon.
Oh, vous savez, des bêtises, tout le monde en fait. Et surtout les filles, naturellement. Je ne dis pas que ça me fasse plaisir. Mais enfin, une femme belle qui n'est pas mariée, ça n'est pas étonnant qu'elle ait fait une bêtise. Et même, c'était inutile d'en parler. Surtout à des personnes qui préféreraient ne pas le savoir.
Mais même si j'avais voulu vous le cacher, je n'aurais pas pu. Dans quelques mois, j'aurai un enfant.
Ça alors, c'est quelque chose. Ça, pour moi, c'est pire que la guerre. Hein. Pour les autres, non, naturellement, mais pour moi...
Et pour moi?
Eh oui, c'est vrai, pour vous aussi. Qui c'est le père de cet enfant?
Un monsieur très riche.
Et qu'est-ce qu'il en dit?
Il ne le sait pas.
Mais enfin, il faudrait le lui dire.
Il est déjà parti pour la guerre.
Alors, qui sait s'il reviendra?
Mais même s'il en revient, je n'espère pas le revoir. Il ne m'aime pas et je suis pauvre. Je ne lui demanderai jamais rien.
Mais votre père, lui, il ne le sait pas, que vous avez fait cette bêtise?
Non, il ne le sait pas encore. Il aura tant de peine par ma faute.
Si vous m'acceptiez comme mari, il n'y aurait qu'à dire que la bêtise, ben c'est moi, quoi. Puisque personne ne le sait, ça irait tout seul. À ma première permission, je vous marie. Si vous voulez, moi, je lui parle tout de suite. Tant pis s'il me frappe, hein.
Merci, Felipe. Non, je ne veux pas. Je lui parlerai moi-même.
Vous avez peut-être encore de l'espoir du côté de l'autre?
Aucun espoir.
Vous l'aimez, lui? Vous l'aimez d'amour? Si pour les femmes, c'est la même chose que pour les hommes, ça ne vous passera jamais. Enfin, si vous avez besoin de moi...
Personne ne peut rien pour moi, que moi-même.
C'est bien malheureux, oui. Oui, c'est malheureux.
Ah, tenez, voilà Amanda. Elle vous apporte des cigarettes.
Patricia est enceinte. Son père, escorté de ses 6 filles, va annoncer la nouvelle aux Mazel, les parents de Jacques, et leur demander réparation. Ils les conduisent froidement. Pascal n'a pas d'autre solution que de se séparer de sa fille. Et voici un nouvel extrait. Pascal, Philippe et Patricia, Françoise.
Amanda passe demain avec les petits. Attendez-moi là-bas, près de cet olivier. Voilà, c'est maintenant que je vais te perdre.
Je le savais, père.
Le car passe à 2 heures au bout de cette route. Tu le prendras et tu iras à Fuveau. Tiens, voilà les sous. Tu iras chez ma sœur Nathalie, elle est blanchisseuse là-bas, tu lui diras ce qui se passe, elle te comprendra parce qu'elle a fait des bêtises graves, elle aussi. Elle s'occupera de toi, moi ce n'est pas que je ne t'aime pas, au contraire, je t'aime à un point que je n'ai jamais voulu te faire revoir. Seulement voilà, ils ne t'ont pas voulu, j'ai fait ce que j'ai pu au grand jour, simplement, tu l'as vu, ils ne te veulent pas. Ils ont dit que peut-être le garçon n'était pas le seul, alors il faut que tu t'en ailles, voilà, d'abord à cause des petites. Dans quelque temps, elle commencerait à poser des questions. Et puis, il y a les voisines. Elles regarderaient tout le temps ton tablier. Elles en parleraient le matin à la boulangerie. Et puis, il faut que tu refasses ta vie ailleurs, mais pas ici. Ici, tu serais une fille perdue.
Mais ma vie est perdue, n'importe où que j'aille.
Mais ici, plus qu'ailleurs. Ici, tu ne peux plus te marier. Oh, je sais bien qu'il y a des veuves qui se remarient. Mais pour toi, ce n'est pas pareil. Toi, si tu épousais un garçon de salon, et même si tu lui disais la vérité, il n'oserait pas sortir le dimanche pour aller se promener avec toi sur les allées de Crampone. Parce que si vous vous rencontriez Jacques et Mazel, toi, tu deviendrais toute rouge. Et lui, il deviendrait tout pâle. Il n'oserait pas lever les yeux. Une femme n'a pas le droit de faire baisser le regard de son mari. Il faut que tu parles, et le plus vite possible, c'est le mieux.
J'y ai pensé toute la nuit, et je suis prête.
Je te ferai porter tes affaires par le car, je les mettrai dans une caisse et je te porterai au car.
Je voudrais qu'on m'y mette moi dans une caisse et qu'on me porte au cimetière.
Mais non, ça n'effacerait rien. Va chez Nathalie. Alors, adieu. Après ce que tu as fait, je n'ai plus le droit de t'embrasser et puis je n'en ai pas envie. Hein. Mais à cause des petites qui regardent, il faut que je t'embrasse. Allez, approche-toi. C'est à cause des petites, hein. Adieu.
Adieu, père.
Fais semblant de dire adieu avec ton mouchoir. C'est à cause des petites. Hein. Adieu.
Patricia ira accoucher chez sa tante Nathalie et s'y cacher avec l'enfant. Un peu plus tard, Jacques est porté disparu puis déclaré mort au combat, au grand désespoir des Mazel dont il est le fils unique. Pascal, le père de Patricia, apprenant via Felipe qu'elle a accouché d'un garçon qui porte son nom de famille, se prend finalement d'intérêt pour cet enfant et fait revenir sa fille afin de l'aider à l'élever. À leur tour, les Mazel s'intéressent à l'enfant dans l'espoir d'y retrouver un peu de leur fils perdu et tentent de renouer avec son grand-père maternel qui refuse tout contact avec eux. Patricia, pourtant, les accepte. Voici un autre extrait dans la salle à manger du Puisatier avec Pascal, Philippe et Patricia, Françoise.
Alors parce que la France a perdu la guerre et parce que Monsieur Mazel a perdu son fils, moi, il faut que je perde mon petit-fils.
Tu ne le perdras pas, père, tu le sais bien.
Je sais que depuis 10 jours, tu es allé 5 fois chez eux. Et ils t'ont donné des braillettes en soie et des coussins de plumes et des bonnets en dentelle, enfin des tas de choses qu'un enfant de pauvre n'a pas besoin. Et cette voiture, à quoi ça ressemble? On dirait une automobile. De tout sûr, elle coûte plus cher que mon loyer. Elle est trop belle, elle fait honte à mon costume du dimanche. Et aujourd'hui, je croyais de rester ici tous ensemble à nous amuser avec lui. Eh bien non, il faut que je mette le col et la cravate et que je mène ma famille chez les Mazel. Pourquoi tu as promis, là? Pourquoi?
Ah, mais j'ai cru bien faire. Madame Mazel m'a dit qu'elle préparait un goûter pour les petites, là, qu'elle leur donnerait des jouets. Alors, j'ai refusé d'abord, mais elle a insisté. Et tu sais, elle, quand elle veut quelque chose, c'est bien difficile de dire non.
Pas pour moi. Moi, non, je saurais très bien le dire, et pas plus tard que tout à l'heure. Parce que je sais pourquoi ils nous ont fait des mamours, hein. Je le sais très bien.
Tu crois qu'ils ont un but?
Oh, que si! Avant-hier, au puits, tu n'étais pas avec moi puisque tu étais chez eux pour changer. Il est venu un de leurs amis, le teinturier des allées de Craponne. Alors il me fait « Je viens de voir votre petit-fils, il est beau, hein ?» Je lui dis « Oui, il est beau !» Et je lui raconte des petites histoires. Comment il écoute les cloches et puis quand il se regarde les doigts et qu'il semble se les compter. Enfin, j'étais un peu fier. Et ce monsieur me dit « Quand même, c'est bien dommage qu'il ne s'appelle pas Mazel. » Ben, j'ai rien dit, j'ai même pas fait la grimace. Et comme je croyais que ce n'était pas possible, j'ai été un peu hypocrite et j'ai dit « Ah oui, c'est bien dommage. » Et il me fait « Vous le regrettez, vous aussi ?»« Oh oui, naturellement que je le regrette. Malheureusement, maintenant, c'est impossible. » Alors il me fait « Mais oui, c'est possible. Mais comment ?» Et alors, il m'explique toute une histoire qu'en allant voir des hommes de loi et en signant des papiers de notaire, les Mazel peuvent très bien l'adapter et qu'il s'appellera comme eux. Tu comprends? Ils sont très forts, ils connaissent les lois et les notaires, et puis tout à coup, ils se l'adaptent, ils se l'ajoutent à leur famille, et nous ne sommes plus rien.
Mais non, père, c'est plus difficile que ça, mais il faudrait mon consentement.
Ah, bon, alors s'il faut ton consentement, alors je suis tranquille. Tu pars toute seule?
J'ai promis d'y être à 2 heures.
Bon, mais vas-y, mais fais bien attention, et surtout, si on veut te faire signer des papiers, méfie-toi.
Le temps passe. Finalement, Philippe apprend par son colonel que Jacques est vivant et l'annonce à tout le monde. Jacques revient, découvre son enfant et souhaite épouser Patricia, ce qui met tout le monde d'accord. Voici un dernier extrait, la scène des deux amoureux qui se sont retrouvés. Le retour, Patricia et Jacques.
Je croyais que vous alliez me parler.
J'ai beaucoup de choses à vous dire, oui, mais maintenant nous avons le temps.
Mais c'est pas parce qu'on a du temps qu'il faut le gaspiller. Est-ce que c'est vrai?
Quoi?
Notre mariage.
Ben, ça en a l'air. Hein.
Ça vous fait plaisir?
Non, évidemment, mais enfin, je suis bien forcé d'accepter.
Ne me touchez pas. Je me fous de vous et de votre bazar.
Petit Nigo, tu l'as cru? Alors, ça va être un ménage où l'on ne pourra pas plaisanter?
Non, pas sur ces choses-là. Parce que moi, je vous aime.
Moi aussi, je vous aime. Et bien plus que tu ne crois.
Vous ne m'avez jamais écrit.
On m'avait dit que vous étiez mariée, mais je l'ai cru.
Elle savait pourtant que ce n'était pas vrai.
Elle voulait me défendre.
Contre moi.
Contre tout le monde, c'est ma mère.
Si quelque jour j'ai un mari, je voudrais être seule à m'occuper de lui. Nos parents sont très bons et je voudrais qu'ils soient heureux. Mais quand vous êtes partie pour l'Afrique, votre mère a brûlé ma lettre. Alors j'ai connu mon malheur et c'était mon malheur à ce moment-là. Et c'est mon bonheur aujourd'hui. Votre père nous a mis à la porte, mon fils et moi, et mon père, lui, qu'a-t-il fait? Au coin de 2 routes, il m'a chassé. Ils avaient toute raison, sans doute. Mais aujourd'hui, cet enfant est à moi et à vous, si vous l'acceptez.
Ben, en somme, nos parents n'ont qu'à disparaître et à nous laisser le bazar.
Bien sûr que non. Ce magasin, c'est eux qui l'ont fait, qui le gardent.
Et nous, Patricia, nous vivrons comment? Je n'ai jamais voulu être un fils à papa et j'avais choisi un très beau métier. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de raison d'être. Je ne veux pas aller toucher ma solde puisque les combats sont finis. D'ailleurs, à cause de mon bras blessé, je ne peux plus être pilote de chasse, mais je ne suis pas vaniteux. Je prendrai volontiers ma place au comptoir du Bazar Mazel.
Cette ferme-là, ces terrains incultes et ce ruisseau du premier jour, est-ce que vous ne pourriez pas en faire quelque chose? Je ne veux pas dire que vous passiez le paysan avec un râteau et une pioche, mais il y a des outils modernes, des tracteurs, des moissonneuses. Vous êtes savant, vous pourriez apprendre. Et il me semble que je serais heureuse dans une ferme qui serait à nous, sur une terre qui nous ferait vivre. Je saurais faire la vaisselle et la lessive, et chaque jour au soleil couchant, j'irai au bout du chemin pour attendre le retour de mon homme qui revient de sa terre et avec ses laboureurs. Mais ça, ce sont peut-être des idées de la fille du puisatier.
Jacques marche, pensif, mais souriant à côté d'elle. Les voici de retour devant la demeure du puisatier. Ils entendent Pascal Amoretti qui parle à son petit-fils.
Adieu Amoretti, bonjour petit Mazel. N'importe comment que tu t'appelles, tu es de mon sang et tu souris. Et ça veut dire qu'il faut semer le blé, planter les vignes, trouver les sources. Nous en avons déjà trouvé beaucoup, mais les plus belles sont encore cachées parce qu'elles sont les plus profondes. Avec des pioches, avec des bras et de l'amour, un jour peut-être, elles sauteront au soleil.
Toute la famille s'est retrouvée. Philippe lui-même se console en épousant Amanda, la cadette de Patricia qui est amoureuse de lui. Tout est bien, qui finit bien pour la fille du puisatier. En 1940, alors que la France sombre dans la débâcle, Pagnol retrouve pour la première fois sur les plateaux des studios de Marseille son vieux compère Rému pour le tournage de La fille du puisatier. La réalisation, commencée le 20 mai 1940, fut interrompue par l'exode, puis reprise le 13 août 1940 avec les mêmes interprètes principaux, y compris Fernandel, alors en permission. La fille du puisatier est un film poignant de Marcel Pagnol qui explore les thèmes de l'amour, de la maternité et des défis sociaux dans la France rurale des années 1940. C'est une œuvre riche qui mêle drame et comédie, tout en abordant les thèmes universels à travers le prisme d'une histoire personnelle et historique. La réalisation de Pagnol, couplée à des performances mémorables, on en fait un film incontournable du patrimoine cinématographique français. C'est une fois de plus la preuve que Pagnol est un cinéaste primordial dans l'histoire du cinéma français. C'est aussi un cinéaste intemporel, car malgré l'évolution fulgurante des mœurs, c'est un film qui nous touche et qui nous émeut toujours autant maintenant. Pagnol, contrairement à ce que l'on a pu dire, ne fait jamais dans le folklorique. Il explore avec acuité et sensibilité notre humanité et les rapports qu'il dépeint, même s'ils sont ancrés dans un contexte historique et géographique bien précis. Lointains sont bien ceux qui fondent notre société. Une adaptation au théâtre, une création nationale, a vu le jour le 24 septembre 2010 au Palais des Congrès de Gruissan, dû au comédien metteur en scène Jean-Claude Boudracco. Et nous l'avons dit, une nouvelle version du film est sortie le 20 avril 2011, réalisée par Daniel Auteuil avec lui-même, Amoretti, Cadmerade qui joue Philippe, Astrid Bergette-Frisbé qui joue Patricia, Sabine Azéma, Jean-Pierre Daroussin, les Mazel. Il s'agit d'une première réalisation de Daniel Auteuil. Merci Françoise, merci Philippe, à très bientôt pour de nouvelles lectures des œuvres de Marcel Pagnol. Dans la prochaine émission, ce sera le tour de Naïs et l'histoire du joli petit bossu. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Avant d'accuser le puits d'être trop profond, le sage vérifie si ce n'est pas la corde qui est trop courte. C'est bien sûr dans La fille du puisatier de Marcel Pagnol. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de notre radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne. L'émission qui parle du théâtre amateur, n'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.